toujours une joie d'être parmi vous et de partager cette parole de vie. Amen. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons eu de ensemble élever ton nom. Tu nous as créés pour cela, pour que nous puissions t'adorer. Et merci pour que nous puissions le faire ensemble, exalter, élever et glorifier ton nom. Nous te confions ce moment. Nous prions, Père, que tu nous donnes une parole qui vient de toi. Que tu sois tout simplement un canal pour que chacun puisse recevoir un message qui vient de toi. Que ton nom soit béni, exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois dans mon cœur, je crois vraiment que nous vivons un moment particulier dans ce pays, en France. Je crois que Dieu va commencer à faire de grandes choses dans ce pays. Je vous vois au moment qui vient où ces sièges ne seront pas suffisants pour accueillir tout le monde qui va venir au Seigneur. L'amen est trop petit et trop faible. Il faut le dire avec conviction. Amen. Je le crois. Je le crois. Alors, Dieu va commencer à agir dans nos vies et dans nos cœurs. Dieu va commencer à préparer son Église, nous préparer pour ce qu'il va faire. Je le crois. Alors, ce matin, j'aimerais commencer à lire avec nous. Si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans le passage de 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens 10, nous allons lire de verset 1 jusqu'au 11. 1 Corinthiens 10, 1 à 11. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombaient morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se levait pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentaient certains d'entre eux qui périt par les serpents. Disent, ne murmurez pas comme murmuraient certains d'entre eux qui périt par l'exterminateur. Puis verset 11, il dit, cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivé. Donc, quand nous lisons ce passage, nous voyons que tout ce qui est écrit par rapport aux Israélites, ou bien, on peut dire, l'histoire dans l'Ancien Testament, ont été écrites pour nous, pour qui la fin des siècles est venue, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont vécu après la venue de Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous lisons quelque chose dans l'Ancien Testament, nous pouvons nous demander qu'est-ce que cette histoire-là m'apprend? Ou qu'est-ce que cette histoire nous apprend, nous, l'Église d'aujourd'hui? Chaque chose qu'ils ont traversée, ce qui a été écrit, Paul dit, a été écrit pour nous, pour qui la fin des temps est venue. Alors, aujourd'hui, on va lire une histoire, quelque chose qui est arrivé aux Israélites. Et de là, nous allons chercher à savoir Que pouvons-nous apprendre? Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne en réalité? Alors, allons dans Exode, chapitre 15. Exode 15, et du verset 22 à 27. Exode 15, 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer des joncs. Il prit la direction du désert de Shur. J'aimerais que nous retenions ceci. C'est Moïse qui les conduit, qui conduit le peuple. Et il dit, il prit la direction du désert de Shur. Donc, sous la direction de Moïse. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient pas d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ?» Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près de l'eau. Alors, quand nous lisons une telle histoire, la question à se poser, c'est qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Qu'est-ce que ce que a traversé, ce que a vécu le peuple d'Israël nous enseigne, nous, pour qui la fin des siècles est venue, comme dit en Corinthiens 10. Imaginez ce que s'est passé. Imaginons un peu l'histoire. Si nous repartons un peu en arrière, nous découvrons que le peuple d'Israël venait de vivre un miracle, probablement. Peut-être le miracle le plus spectaculaire dans le récit biblique. Moïse avait levé son bâton et la mer rouge, ou la mer des joncs, comme il est dit ici, la mer s'était ouverte. Non simplement la mer avait constitué deux murs pour laisser passer les Israélites, mais en plus encore, la terre était devenue sec. Et tout le peuple d'Israël, si vous lisez bien l'Ancien Testament, il est dit qu'il y avait à peu près 600 000 hommes qui étaient prêts pour le combat. 600 000 hommes qui étaient prêts pour le combat, qui sont sortis de l'Égypte. Donc, si on prend ces 600 000 hommes, chacun au moins sa femme, probablement, les enfants, les gens plus âgés qui ne pouvaient pas aller au combat et tout ça, on parle de plus d'un million. Donc, un million et plus de personnes qui ont traversé la mer. Et puis après, Pharaon et son armée ont été engloutis dans la même mer. Et le peuple d'Israël avait vu ces miracles de leurs propres yeux. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Ils ont vu la puissance économique, militaire, à l'époque, écrasé et anéanti. Ils ont vu devant eux l'Égypte, qui était le pays le plus puissant, devant eux, eux qui étaient, il y a quelques jours, qu'ils étaient encore des esclaves. Donc, ils sont sortis comme esclaves, ils n'avaient pas des armes. Ils n'avaient rien à faire face à la puissance militaire de l'Égypte. Et devant leurs yeux, Dieu a anéanti Pharaon et son armée. Ils l'ont vu. Et il dit, Moïse maintenant le conduit pour traverser le désert de Shur. Donc, il venait juste de vivre un miracle puissant, extraordinaire. Et il est dit, après ça, ils ont marché 3 jours dans le désert sans voir de l'eau. 3 jours. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a fait 3 jours de jeûne sans manger et boire? Il faut l'essayer peut-être si vous êtes en forme. Mais les médecins disent qu'on ne peut pas dépasser 3 jours sans boire. 3 jours sans boire, c'est le maximum. 3 jours sans de l'eau. Peut-être pour les jeunes qui étaient plus en forme, ils pouvaient résister. Mais les enfants et les personnes âgées, excusez-moi, j'imagine que ça ne devrait pas être facile. Et puis, finalement, ils tombent sur une oasis, probablement. Ils tombent sur de l'eau dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Cette eau-là était amère. Oh là là! Imagine des gens qui ont fait 3 jours sans boire et qui tombent sur l'eau. Je veux imaginer qu'ils étaient pressés pour commencer à boire beaucoup. Et puis l'eau-là était amère. Quelle déception! Quelle déception! Peut-être la colère. Et Moïse a crié à l'Éternel. Et quelle était la solution de Dieu? Et c'est ça qui nous intéresse. Quelle était la solution de Dieu? Dieu a dit à Moïse d'aller couper du bois en bois et de jeter ça dans l'eau. Moïse a obéi. Moïse n'a pas dit, mais Dieu, juste couper du bois et jeter dans l'eau, qu'est-ce que ça va faire à cette eau-là? Mais Dieu, je ne comprends pas. Explique-moi le contexte médical peut-être dans ça. Scientifiquement, ça ne peut pas marcher. Du bois dans l'eau et puis et Moïse a obéi. Dites à celui qui est assis avec toi, tout simplement obéis à Dieu quand il te parle. Dis-lui, obéis à Dieu quand il te parle tout simplement. Parfois, ce que Dieu nous dit de faire n'a pas de sens. Réellement, scientifiquement parlant, humainement parlant, il n'y avait pas de sens de prendre du bois et jeter dans l'eau qui est amère. Mais Moïse a obéi. Et c'est comme si le bois là a extirpé, a extrait, a absorbé l'amertume qui était dans cette eau. Et cette eau est devenue douce. C'est merveilleux. Pourquoi cette histoire est arrivée au peuple d'Israël? C'est ce qui nous intéresse. Pourquoi ceci leur est arrivé? Parce que la Bible dit que tout ce qui leur est arrivé, c'est pour nous instruire. C'est pour nous enseigner quelque chose. C'est pour nous, pour qui la fin des temps est venue. Pourquoi est-ce que ceci leur est arrivé? Alors, venez avec moi, si vous voulez bien. Dans Matthieu 27, Matthieu 27, lisons à partir du 27 aussi. Matthieu 27, à partir du 27. Là, nous voyons comment Jésus a été traité par les soldats du gouverneur avant d'être amené à être crucifié. Matthieu 27, 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils s'assemblaient autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtaient ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, il s'agenouillait devant lui en se moquant de lui et en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait sur lui. Prenez le roseau, et le frappait sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le vêtement, lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. 32. En sortant, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il s'est partagé ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. J'ai regardé le dictionnaire. Qu'est-ce que signifie le fiel? Et il dit ceci. Il dit le fiel, c'est en fait le bien des animaux. Au sens figuré, il dit c'est amertume, animosité. Au sens figuré, littéral, c'est amertume ou animosité. Et la Bible dit, de un, je vais relever avec vous ce qu'ils ont fait à Jésus. De un, il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. De deux, ils se sont moqués de lui. De trois, ils ont craché sur lui. Et quatrièmement, il le frappait sur la tête. Et après avoir traité Jésus de telle sorte, il dit qu'ils ont mélangé du fiel dans du vin pour lui donner à boire. Ils ont mélangé de l'amertume, le bile des animaux, de l'amertume dans du vin pour donner à Jésus pour boire. Il est vrai, il suffit de grandir un tout petit pour. Quand on est tout petit, parfois on ne sait pas. Mais il suffit de commencer à grandir et d'entrer dans la vie pour découvrir que la vie est pleine d'amertume. N'est-ce pas? Qui n'a jamais vécu une situation qui le provoque à l'amertume ici? Je n'ai jamais été amené à être amer. Jamais. Il faut être un enfant pour vivre ça. Non, Eliona n'a pas vu ça encore. Nous vivons tous des situations qui peuvent provoquer à nous la colère, l'amertume, l'animosité. Ça peut être au travail. Ça peut être dans le quartier. Ça peut être à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Et parfois, ça peut être même dans l'église, malheureusement. Ça ne doit pas être le cas, mais ça arrive. Que des situations, des circonstances que nous traversons, qui risquent de produire à nous de l'amertume. Et Dieu le savait. Dieu savait que ceci ou ces choses vont arriver. Dieu savait que nous allons vivre des situations qui peuvent provoquer à nous l'amertume. Nous allons voir. Si vous avez vu Exode 15, où nous avons lu, à la fin, il est question de guérison. Après, on va voir 1 Pierre 2. Et là, à la fin de 1 Pierre 2, il est question de guérison aussi. Dieu sait toutes choses. Il sait les situations que nous allons vivre. Parfois, l'une des choses qui fait mal pour certaines personnes de vivre, c'est même dans la famille. Des choses qui se passent entre frères et sœurs, dans la famille, ou entre frères et sœurs dans l'église, qui provoquent d'amertume, qui provoquent d'animosité. Et Dieu le sait. Et Dieu a une solution. Alléluia. De la même façon qu'il a demandé à Moïse de jeter un bois dans cette eau amère, Dieu a jeté son bois dans le monde. Qui le sait, c'est quel bois? La croix, merci. Dieu a jeté son bois dans l'eau amère du monde. Le monde est devenu comme cette eau que le peuple d'Israël a tombé dessus. Le monde est devenu un monde amer. Le monde que nous vivons aujourd'hui est un monde amer. Je pense que les gilets jaunes le montrent, n'est-ce pas? C'est un monde qui est amer, qui est difficile, qui provoque l'amertume, qui provoque l'animosité, qui provoque des choses. Mais Dieu a une solution. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir la solution de Dieu et comment appliquer cette solution-là dans nos vies. Parce que l'intention de l'ennemi, l'objectif de l'ennemi est de te rendre un homme, une femme amère. Peut-être tu vas dire, moi, jamais je serai amère. Mais ça, c'est le plan de l'ennemi pour ta vie. L'ennemi veut te rendre un homme, une femme plein d'amertume. Et Hébreu dit que l'amertume, c'est une maladie contagieuse. C'est ce que dit le livre de Hébreu. Quand quelqu'un est plein d'amertume, ça contamine. Il contamine les gens autour d'eux. Et ce que Dieu veut faire est qu'il veut nous apporter sa guérison. Et cette guérison, ça passe par la croix. Ce que Jésus a vécu, cette situation, condition amère qu'ils l'ont fait traverser, il était en train d'extirper, il était en train d'extraire, absorber toute amertume que nous pouvons traverser dans la vie. La croix de Jésus, c'est le bois que Dieu lui-même a jeté dans le monde pour extirper, pour enlever, pour absorber toute amertume que nous pouvons vivre, afin que nous soyons des hommes et des femmes pleins de douceur. Jésus a dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11, 29.